Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le problème n'est pas là.
Francis Gosselin.
Ça sonne comme une arnaque.
J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
Mario Dumont.
Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
La rencontre. Gosselin. Dumont.
Bonjour, Francis. Alors, changement à la fiscalité, donc sur les gains en capital. Est-ce que le gouvernement du Québec pourrait imiter Ottawa? Parce que dans le fond, là, c'est présentement, c'est plus harmonisé. Là. Si tu fais un gain en capital, tu vas être traité d'une façon à Québec ou d'une autre façon à Ottawa avec les annonces d'hier.
C'est la particularité d'avoir deux régimes fiscaux. Hein. Les Québécois sont parmi les rares au monde à être aux prises avec ça. Et donc, effectivement, suite à l'annonce d'hier, c'est certain que M. Girard a dû saliver hein, à voir les revenus potentiels que ça pourrait représenter.
On a un problème de communication, visiblement. On n'entend plus Francis. On va essayer de rétablir ça. Oui, et donc, à quel moment est-ce que le gouvernement du Québec pourrait le faire par un geste intérimaire? Là, parce que Ottawa l'annonce au 25 juin. Donc, est-ce qu'on... Ouais, bon, Francis est revenu. Non, on t'a perdu, Francis. J'allais poser la question. Mettons que le gouvernement du Québec voit l'opportunité, voit les milliards qu'il pourrait faire, l'argent supplémentaire qui pourrait rentrer, mais est-ce qu'il pourrait faire une espèce de geste budgétaire spectaculaire là, à l'Assemblée nationale pour rentrer en vigueur la même date, le 25 juin? ou bien, ce qu'il attend à son budget, mais là, son budget, c'est mars prochain, c'est dans un an?
Tout est possible, Mario. Je trouve juste ça quand même assez particulier. Bon, de M. Trudeau, on n'est pas très surpris. Là. C'est une forme de désespoir fiscal là, à laquelle il nous a habitués depuis plusieurs années. Mais pour la CAQ, qui était quand même censé être le gouvernement des comptables, le gouvernement
des entrepreneurs, des PME.
De venir. Puis tu sais, j'ai quand même lu beaucoup aujourd'hui, Mario, sur les réseaux sociaux, différentes personnes qui ont réagi à ça. Puis loin de moi, l'idée de défendre les riches. Mais il y a quand même plusieurs cas d'usage, Mario, pour lesquels des politiques comme ça vont être très négatives, notamment dans le domaine de l'immobilier. Tu t'imagines bien que des gens qui aujourd'hui investissent de leur argent, là, des gens effectivement fortunés, qui sont intéressés d'investir dans l'immobilier et qui calculent un certain rendement, ben c'est sûr que si l'État vient puis capture une portion plus importante du gain en capital, donc de la profitabilité du projet, ben ça va dissuader certains investisseurs d'investir en immobilier. Donc ça risque d'un peu tirer dans cette univers, où il y a effectivement beaucoup recours à du capital externe. Un autre univers, Mario, les entrepreneurs, puis les repreneurs, surtout, Mario, qui actuellement font certainement des calculs. On sait qu'au Québec, on souffre de trop peu de repreneurs pour les entreprises, les PME qui vont devoir être vendues dans les prochaines années. Ben, c'est sûr que de pénaliser ces gens-là de manière additionnelle, ça va possiblement à la marge là, enlever quelques acteurs du marché. Donc, c'est une drôle de posture. Là.
Francis, plus tôt, j'ai parlé avec le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, et sur cette mesure précise, oui. Lui, l'impression, l'étonnement qu'il a et l'impression qu'il a, il comprend pas qu'une mesure comme ça, il dit, si t'es pour la faire, il est pas d'accord, là, mais il dit, même si t'es pour la faire, faut qu'elle entre en vigueur, genre à minuit le jour même, du budget. Parce que lui, ce qu'il craint, c'est que beaucoup de gens, là, exemple, qui ont des actions ou des portefeuilles d'actions ou des vieilles actions que tu as achetées il y a 20 ans, là, tu sais que tu fais du sable, du 150%. Non, mais au fil des années, du 150-200% là-dessus, des gros gains en capital. Il dit, ben, ces gens-là vont vendre leurs... Parce que là, ils ont jusqu'au 25 juin. Fait que si tu vends le 15 juin, tu sors ton argent du Canada, tu comprends? Est-ce que tu crées ce phénomène-là? T'as que des gens vont vendre des chalets, vendre des propriétés, vendre des actions, vont liquider là, en mai, en juin pour payer l'ancien taux?
Faudra voir, effectivement, Mario, mais ça pourrait avoir un impact, notamment sur le marché boursier. Il y a pas mal de gens, probablement, qui allaient vendre dans l'année ou dans les prochaines années qui vont décider de liquider certains placements, de vendre, comme tu disais, certaines propriétés. Je pense pas que ça va être 50% là, des investisseurs.
Non.
Je pense que ça pourrait avoir un certain impact et donc générer un marché baissier spécifiquement en conséquence de la mesure imposée par M. Trudeau.
Et faire perdre de l'argent. C'est-à-dire que, de l'argent que le gouvernement fédéral a compté comme des entrées de fonds, ben, il entrera jamais. Les gens vont vendre avant. Et là, est-ce qu'ils vont sortir l'argent du pays? Ça, c'est la question. C'est toujours le danger quand tu laisses aux gens une chance de s'adapter. Tu annonces une mesure fiscale plus tard, tu laisses aux gens le temps de s'adapter. Là.
Exactement. Donc, tout ça, Mario, est un drôle de jeu là, qui est joué par le gouvernement fédéral, encore une fois, dont la prémisse, c'est qu'ils sont pas capables d'arrêter de dépenser. Donc là, ils trouvent l'argent où ils le peuvent. Encore une fois, j'ai rien contre, en particulier, là, d'imposer davantage les plus riches, mais c'est quand même la classe qui est déjà la plus fiscalisée au Canada. Donc, on peut toujours aller en chercher un petit peu, mais il faut dire, Mario, les capitaux, c'est pas mal plus mobile que les gens. Hein? Fait que c'est sûr que plus tu vas imposer l'argent, ben plus l'argent, il va aller trouver des rendements ailleurs, aux États-Unis, en Europe.
Ça, j'allais dire, surtout quand t'as un voisin comme les États-Unis, qui est quand même une économie ouverte avec lesquelles c'est facile de faire des affaires puis qui ont des taux d'imposition incomparables. Ouais. Petit test de la réalité pour le ministre Fitzgibbon qui resserre les règles pour la filière batterie.
Oui, ben c'est un peu un aveu de sa part de dire que jusqu'ici les critères étaient pas très serrés. Là. C'est ce qu'on peut lire entre les lignes. Il a consenti là, jusqu'ici à peu près $1 milliard en stricte subvention. Là. On oublie là, les prises de participation et autres incitatifs. Donc en stricte subvention. Et ce que dit Monsieur Fitzgibbon, c'est que là, je cite, on va commencer à être plus rigoureux. Je sais pas Mario s'il faut entendre qu'il ne l'était pas, mais en tout cas une chose est certaine là, c'est que la question budgétaire dont on vient de parler, autant au fédéral, autant au provincial, ben, à un moment donné, elle vient un peu mettre relativiser les plans de M. Fitzgibbon. Là, l'assiette de subvention, elle n'est pas infinie, puis il va falloir à un moment donné qu'on resserre un petit peu les critères. Par ailleurs, il dit qu'il veut aussi s'assurer qu'on ne donne pas qu'à un secteur, hein, qu'à une filière. Donc, essentiellement, peut-être commencer à regarder vers d'autres types d'activités que simplement les batteries et toute cette filière là, du lithium et des véhicules électriques.
Reste que si tu veux, donc tu veux créer, tu penses qu'une industrie est l'industrie de l'avenir, tu veux créer une filière chez vous dans ce domaine-là, il est probable qu'en termes d'aide gouvernementale, il va falloir que tu donnes beaucoup au premier pour l'attirer chez vous en disant, regarde, là, tu vas être le premier joueur, tu vas t'établir à Bécancour, on n'a rien dans le domaine des batteries. Là, quand tu en as un deuxième, un troisième, un quatrième, peut-être qu'au fil du temps, ton argument pour attirer les gens, c'est moins des aides gouvernementales que de dire, ben garde, là, à Bécancour, il y a plein d'entreprises, tu vas pouvoir collaborer, et sont déjà là. T'sais, c'est le principe d'une filière. Une fois que tu as la filière, la filière attire d'autres joueurs. Alors que pour attirer les premiers joueurs, faut peut-être que tu sortes un peu plus ton chéquier, là.
C'est effectivement le cas, Mario, et donc cette croyance puis qui correspond là, à toute la théorie de la politique industrielle là, qu'on a un peu mis de côté là au Québec depuis plus d'une décennie, mais de dire qu'effectivement on va encourager un certain nombre d'acteurs qui vont, comme tu dis, créer des réseaux, des écosystèmes, des filières carrément, puis éventuellement d'autres acteurs vont venir parce que de l'autre côté de la rue, t'as un client, t'as un fournisseur, t'as toute la capacité, la compétence, donc éventuellement, je pense que sans être tout à fait arrivé à ça, on y arrive éventuellement. Et donc, il va falloir être un petit peu plus parcimonieux avec l'argent public.
On s'était parlé de l'Alberta qui avait une espèce de campagne pour attirer, on dit des travailleurs du Québec. En fait, l'Alberta veut attirer des travailleurs de la construction de toutes les autres provinces, des 9 autres provinces du Canada avec un crédit d'impôt remboursable. Là, autre initiative pour attirer des travailleurs du Québec, celle-là vient de l'Ontario, mais celle-là est plus ciblée sur le Québec. Là, c'est carrément des publicités, de l'affichage en Outaouais là, pour attirer des travailleurs du côté ontarien.
Effectivement, puis il y a quand même en Ontario comme au Québec là, un besoin là, en main d'œuvre dans la construction. Puis le Québec, comme on le dit souvent, est une province où il y a des travailleurs qui malheureusement, Mario, ne travaillent pas beaucoup. Hein. Donc c'est au Québec là, les travailleurs de la construction moyen travaillent à peu près 1100 heures. Là, donc pour toutes sortes de raisons, le projet de loi 51 là, dont on a déjà parlé ensemble là, cherche à régler certains problèmes, notamment en matière de mobilité, en matière de polyvalence. On a les attestations d'études professionnelles accélérées qui ont été mises en place. Mais tout ça, Mario, pourrait ou pas régler la situation. En Ontario, où il y a plus de 2 fois plus de travailleurs de la construction, les conditions salariales à l'heure sont plus avantageuses, ben c'est ouais. sûr qu'il y a un intérêt. Puis comme tu dis, là, l'Ontario est voisine de l'Outaouais, là, donc tu sais, c'est sûr que ça fait pas loin. Je pense pas qu'ils vont attirer des gens de Sept-Îles. Puis de... Ouais, tu sais, c'est ça. Là, fait que je pense pas qu'ils vont attirer des gens des 4 coins de la province, mais dans un bassin de proximité, c'est certain que ça peut être très intéressant. Je rappelle aussi que les AEP, Mario, là, je l'ai déjà dit, puis je trouve toujours ça un peu drôle, mais il y a aucune obligation de travailler ni au Québec.
Là,
ni
tu
même
parles
dans
des gens qui, les gens qu'on paye pour étudier. Là, donc, ces gens formés en accéléré qu'on paye pour étudier. Bon, le ministre continue de dire, je l'ai eu en entrevue, continue de dire non, les indications qu'on a, c'est 95% vont travailler dans la construction au Québec. Par exemple, ils pourraient aller travailler en Ontario. Là, ça pourrait être tentant pour une province voisine de dire, ben, le Québec vient de payer pour faire former des nouveaux travailleurs. On va aller leur prendre.
Exactement, à des salaires, comme je te dis, qui sont un petit peu plus intéressants, puis avec possiblement plus d'heures réalisées sur une base annuelle. Donc, c'est possiblement quelque chose qui va être intéressant, puis éventuellement qui va peut-être forcer le ministre à brandir son arme de l'autre côté, puis à imposer quand même un minimum d'obligations. Puis, tu sais, je te le rappelle, l'Ontario, qui ont développé une mesure fiscale, tu sais, avec un 5 000 $, ils obligent les travailleurs qui vont en bénéficier de faire une déclaration d'impôt en Alberta, d'habiter là pendant 12 mois. Je n'ai pas vu là, exactement les clauses. Là,
non, mais il y a des obligations.
Alors,
les formations au Québec viennent sans... On paye, mais sans obligation en retour. Hey, merci, Francis.
Qui est un peu particulier.
Bye-bye, à demain.